Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Radiojudaïca.be, c'est la radio sur laquelle vous êtes branchés. Il est 20h et à 20h, comme tous les jours, d'après-match pendant 7 euros, eh bien, on joue l'euro.
Allez, Eden. Eden Hazard, la petite pichenette vers Axel Witsel.
Witsel qui récupère la passe en retrait.
Pour Lukaku, on rencontre avec lui. Tu vas nous le mettre. Tu vas nous le mettre. Il ouvre. C'est go.
Aïe, 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 c'est ce que doivent se dire aujourd'hui les malheureux Hongrois. On y reviendra tout à l'heure dans On joue l'Euro, puisque eh bien, en ayant bien joué 2 matchs sur 3, ils se retrouvent dehors, alors que il y a certaines équipes qui n'ont pas encore joué au foot et qui sont déjà en 8e de finale, je pense notamment à l'Ukraine, on verra cela. On est ensemble pendant 1 heure pour parler foot avec aujourd'hui Henri Daniel qui est avec nous. Bonsoir Henri.
Bonsoir Didier.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Et puis nous avons avec nous aussi Alex Demeter de Sportmice, une agence de communication et marketing, c'est bien ça?
C'est Sportmice.
Sportmice, qu'est-ce que j'ai dit?
Sportmice.
Ah non, oui, 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 Sportmice, comme ça on l'a prononcé 3 fois en même temps.
Ça c'est fait la pub.
Bien, Alex, qu'on vous a retrouvé quand vous étiez à Munich, on vous a retrouvé, je pense aussi, c'était à Wembley, c'est ça? Non, en...
Amsterdam,
voilà, une autre capitale. De toute façon, il n'y a que dans des capitales. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a également Kostia, qui est le pauvre, toujours en train de tourner dans le quartier. Je peux vous dire que le Covid, ça a l'air d'être loin derrière nous, parce que c'est blindé de monde. Et alors, en plus, je me disais, en Belgique, tout ce qui est provisoire devient définitif. On va faire une petite parenthèse qu'on va fermer aussi vite. Et donc, toutes ces terrasses, et on comprend pour quelles raisons les cafetiers et les petits restaurants ont pu recevoir des autorisations pour avoir des terrasses sur les trottoirs, ce qui veut dire que ça fait des places à garer en moins et que voilà, et qu'on met à peu près... pour ma part, j'ai mis 25 minutes pour trouver une place. C'était un vrai bonheur. Monsieur Doulkeridis, si vous nous entendez, bourgmestre d'Ixelles, est ô combien efficace. Il faut bien reconnaître à César ce qui lui appartient. Mais ce serait bien de penser aussi aux automobilistes, parce que sinon, on va pas s'en sortir.
On pense plus trop aux automobilistes, je pense, pour l'instant.
Ben non. Il faudrait aussi expliquer aux cyclistes que c'est vrai qu'ils ont le droit et que ce sont des usagers faibles, mais quand ils viennent de droite d'une rue à sens interdit, qu'ils vous regardent méchamment, parce que, comme c'est sens interdit, ben voilà, il faudrait peut-être leur apprendre aussi un peu le respect et,
petite parenthèse,
la bonne éducation.
Je vais m'acheter un sac Uber Eats. Parce qu'apparemment, ça t'exonère de toutes les codes de la route. Tu fais ce que tu veux une fois que t'as un sac à Uber Eats sur le dos.
Ne donne pas les bons trucs et les bonnes astuces.
Le Tour de France approche. On pourrait faire une émission pour les cyclistes.
Voilà, c'était juste un petit coup de gueule en attendant. Kostia, l'humoriste que vous aimez bien, un humoriste unioniste en plus. On a reçu son acolyte et ami Greg Genard la semaine dernière. Et donc, lui est toujours en train de chercher une place, le pauvre. On lui souhaite bon courage. Il nous écoute parce qu'à mon avis, il n'a plus que ça pour ronger son frein. Bien. Alors, le programme, vous savez, lendemain de match, aujourd'hui, il n'y a pas de football. Donc, les dames qui détestent ça, et les hommes d'ailleurs qui détestent ça, seront bien, bien contents de pouvoir avoir, je dirais, deux journées de congé, puisque c'est samedi que commencent les 8e de finale qui seront l'objet de notre émission de ce soir. Et puis, vous le savez, depuis hier soir, on connaît l'adversaire des Belges. On a attendu, ça a été une soirée, je dirais, absolument chaude en termes d'ascenseur émotionnel. On est passé par toutes les couleurs et par toutes les tendances. On a joué à tour, on était contre la France, contre l'Allemagne, contre la Hongrie, et puis finalement, c'est tombé sur le Portugal. Et donc, nous verrons ça avec un invité que nous joindrons par téléphone. Il s'appelle Miguel, portugais de Belgique, supporter de Benfica. On verra avec lui le huitième de finale vu par un supporter portugais. Bonsoir Kostia, il nous a rejoint enfin, il a trouvé une place.
Ah bonsoir. Je suis arrivé en courant, j'ai couru, comme les Français ont couru derrière la balle.
Ah, j'ai un copain ce soir, c'est cool. Bien.
Bonsoir à tous, pardon.
Mais pas de souci. On expliquait justement, et on a ouvert la parenthèse fermée, mais avec ces terrasses qui naissent et qui fleurissent un peu à gauche à droite, ça devient compliqué de trouver une place. Mais c'est chouette, ça donne de la vie dans le quartier.
Exactement,
ça, c'est ça, top. On a l'impression d'être à Paris, comme... voilà, c'est top, mais alors il faudra prévoir des transports en commun en conséquence. Ce sera pas plus mal. Bien, alors, je disais, on va rejoindre Miguel dans un petit instant au téléphone, puisque on sait que les Diables rencontreront le Portugal, ce sera dimanche à Séville sur le coup de 21h.
Et
oui, et ben, il fera chaud ou il fera froid, de toute façon, il faudra bien le jouer le match. Hein, donc, c'est ce que j'ai adoré, Antoine Griezmann, après le match contre la Hongrie.
On
ne s'entendait pas. Oui, mais bon, mon gars, tu joues au Real, tu joues à Barça, c'est pas le stade de Edmond Martens. Hein, donc, en principe, il y avait moitié moins de monde que d'habitude. Enfin bref, c'était un petit peu des excuses qui n'en étaient pas, quoi.
Un peu gris.
On dirait bien. Bien, je vous propose, en attendant que notre ami Miguel nous rejoigne, ou que nous rejoignions plutôt Miguel, parce que si on l'appelle pas, il aura du mal à répondre, évidemment. Et donc, je vous propose de revenir sur les matchs d'hier soir, si vous voulez bien. Et donc, on va commencer, on va être chronologique, hein, on va commencer par le match qui nous intéressait le moins, je vais dire. C'était le match qui opposait l'Allemagne à la Hongrie. On pensait que ce serait les Hongrois seraient un oiseau pour le chat. Il n'en a rien été. Moi, personnellement, je n'ai pas vu beaucoup d'images. Je ne sais pas lequel d'entre vous a regardé ça le plus attentivement. Pas tous à la fois.
Beaucoup de monde a regardé France-Portugal. Ouais, mais après, les Hongrois sur papier, quand tu vois, ils ont joué champion du monde 2014, champion d'Europe 2016, champion du monde 2018. Ils prennent 2 points.
Tout à fait.
C'est quand même vachement pas mal.
Ils prennent 2 points. Et très franchement, contre la France, c'est un but qui est tombé de nulle part, il faut bien l'avouer. Hier, j'ai été très étonné parce que je suivais le score, je regardais le match des Français, bien sûr, face au Portugal, et je regardais dans LiveScore, pour pas nommer le site sur lequel j'étais, où tout était remis à jour en permanence. Eh bien, après 8 minutes ou 10 minutes, je crois que c'est 0-1 pour les Hongrois, et puis je me dis, ok, bon, la Mannschaft, elle va se réveiller, machin. Et bon, l'égalisation est intervenue à presque près de 70 minutes de jeu. C'était tout sauf un oiseau pour le chat. Et donc, et puis les Allemands égalisent, je me dis, bon, c'est parti. Et puis la minute suivante, c'est de nouveau 1-2 pour les Hongrois. Donc et nous, la dernière fois, je pense, lors d'un grand tournoi, les derniers qui les ont battus sèchement, c'est quand même, allez les Diables, hein, c'était du 4 ou du 5,
4-0.
Hein,
4-0 en France.
4-0 en France ?
4-0 à Toulouse.
Oui, oui, d'accord.
Mais est-ce que c'était la même équipe ?
C'était similaire, on va dire, mais c'était Bernstorck qui était leur entraîneur à l'époque, qu'on a connu à Moucron au Cercle de Bruges après. Et c'est le seul match où les Hongrois sont venus la fleur au fusil. Et les Diables en ont profité à l'époque.
Pour rappeler, dans ce tournoi, leur premier match, ils jouent contre le Portugal. C'est 0-0 à la 84e, ils marquent un goal, annulé malheureusement pour hors-jeu. Et puis ils encaissent 3 goals en 6 minutes. Mais ils ont tenu 84 minutes contre le Portugal. Ils jouent contre l'Allemagne, ils tiennent le coup, 70, comme disait Didier, 70 minutes avant l'égalisation. Ils prennent un goal, ils repassent devant, ils reprennent un deuxième goal.
Ah mais moi, on est passé entre le Portugal, la Hongrie, le Portugal, la Hongrie. Parfois, je me demande si c'est pas mieux de rencontrer le Portugal en huitième que la Hongrie, qu'on aurait peut-être pris un petit peu à la légère.
Ça, c'est ce qu'on pense aussi.
Eh bien, c'est parfait. On va savoir ce qu'en pense un supporter portugais, supporter de Benfica. J'imagine qu'il doit être supporter je sais même pas comment est le surnom de l'équipe portugaise. On va peut-être se renseigner. Miguel, vous êtes avec nous ? Allô ? Ah oui, oui. Miguel,
allô,
vous êtes...
bonsoir.
Bonsoir. Oui. Comment ça va bien ?
Ça va bien. Nous sommes soulagés de rencontrer la Belgique après cette groupe très difficile. Et c'est un plaisir de vous rejoindre dans cette émission.
Ah, vous m'avez fait peur parce que vous m'avez dit on est soulagés de rencontrer la Belgique. Ça veut dire que vous m'avez fait peur hein, sur le coup.
Non, pas du tout.
Je disais à l'instant, quel est le surnom de l'équipe portugaise ? Est-ce que nous, c'est les Diables, les Bleus pour les Français ? Est-ce que les Portugais ont également un surnom ?
Il y a eu, pendant quelques championnats du monde et l'Europe, on avait plusieurs noms, de Megri, Souge, Kine, mais je crois que les dernières années, on n'a pas vraiment un petit nom pour la sélection. On l'appelle la sélection portugaise, c'est plutôt ça. Mais je peux être trompé, mais je ne crois pas, parce que d'habitude, il y a tout le fait merchandising avec le petit jouet, tout ça, et je crois que ça n'est pas arrivé la dernière année.
Ah d'accord, comme les mascottes, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, exactement.
D'accord.
Est-ce qu'on n'appelle pas la Seleção?
Oui, comme le Brésil. Dire comme le Brésil.
Alors voilà.
Alors
vous avez. Alors en fait, la Belgique va rencontrer pour la deuxième fois en 4 ans une Seleção. La première fois, c'était un bon souvenir, la première fois. Donc on espère que, enfin, en tant que Belge, évidemment, en tant que supporter plutôt, pas en tant que Belge à part entière, en tant que supporter de l'équipe belge, je serais content que ce soit le même résultat pour les Diables Rouges contre la Seleção. Et vous, comment vous le vivez, cet euro? Je rappelle que vous êtes belge, supporter de Benfica, on entend, ou alors vous êtes un imitateur fantastique, mais on entend à votre accent qu'effectivement, le Portugal doit vous être cher. Comment vous vivez cela?
Bon, d'abord, j'ai pas réalisé autant de matchs que j'aimerais, parce que la responsabilité de travail avec les petits enfants, c'est difficile. Mais avec la sélection portugaise, que je regardais bien sûr tous les matchs, on n'a pas commencé, je dois dire, moi personnellement, je suis plutôt content avec ça, avec la situation du Portugal, même si le jeu avec l'Allemagne n'est pas très, très, très bien réussi, on peut le dire. Mais j'étais plutôt curieux avec le changement que Fernando Santos voudrait faire, parce qu'il est très critiqué au Portugal pour la façon comme il met son équipe à jouer. Et je crois qu'il a essayé d'écouter son critique, les joueurs qu'il a critiqués, et changer un petit peu son jeu. Il est attrapé au milieu de nulle part. C'est pas vraiment ça qu'il voudrait faire. Il sait pas encore la population, les supporters de Portugal veulent aussi. Parce qu'on dit toujours qu'on a des joueurs pour jouer beaucoup mieux que ça, et c'est vrai. Mais pour dire la vérité, c'est que pendant des années, on a joué comme jamais et perdu comme toujours.
Ah oui, ça c'est une super formule par contre, ça c'est vrai.
En 2016, non, on a gagné, comme ça.
Miguel, j'ai une question, vous m'entendez?
Oui.
Quelle a été la réaction de la presse quand ils ont découvert que l'adversaire du Portugal, ce serait la Belgique? Comment la presse a réagi au Portugal? Les journaux, la télévision?
La presse et même quelques websites spécialisés ont préféré, bien sûr, de jouer avec soit la Suisse, bien sûr, ou soit l'Angleterre. Angleterre, parce que même s'ils sont forts et même s'ils jouent à Wembley, on a cette tradition récente de gagner contre l'Angleterre. Donc ça, on a cet avantage psychologique. Mais par contre, on n'est pas mécontent de jouer avec la Belgique, parce que le gens en général, et j'ai parlé pendant ces journées-là avec beaucoup de gens au Portugal, sont contents de jouer avec une sélection qui, en même temps, la qualité technique et la volonté de faire bien les choses avec le type de joueur, c'est pas si différent que ça. Et la vérité, c'est que les femmes en Portugal sont soulagées, comme vous avez commencé à le dire, d'arriver à cette phase-là.
D'arriver. Ça, tout le monde avait peur de ne pas passer le premier tour à cause de la force du groupe, c'est ça?
Oui, parce qu'on savait que c'était un groupe très difficile d'abord, hein, pour nous et pour vous aussi. Parce que, en fait, la Belgique savait que s'il gagnait le groupe, et la Belgique devrait gagner le groupe, la Belgique allait jouer avec soit le Portugal, soit l'Allemagne, soit la France. Donc c'est pas très, très gai pour vous non plus. Non. Hongrie était presque ça, mais heureusement pour nous, elle n'est pas arrivée.
Est-ce que la presse portugaise est confiante, se dit on va battre la Belgique?
Je ne dirais confiant. La presse est confiante qu'on peut y arriver. Donc, c'est en général, les gens parlent d'un 50-50. Moi, personnellement, je crois que c'est plutôt 60-40 pour vous. Mais en général, il y a un 50-50.
Non, non, il ne faut pas nous mettre la pression comme ça. On va rester à 50-50, c'est tout.
Non, non, je crois parce que... Bon, c'est incroyable ce que Kevin De Bruyne peut faire avec cette passe-là pour Lukaku. C'est quelque chose qui n'existe pas. De ce moment-là, dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui joue comme De Bruyne.
C'est vrai, mais enfin, j'ai vu un petit Renato Sanchez de derrière les fagots hier. Moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas trop bien. Eh bien, je pense que tous les gens qui étaient comme moi avant le match d'hier, maintenant, ils auront un nom à la bouche, c'est Renato Sanchez. Mmh. Quel joueur, quel match il nous a sorti hier. Est-ce que c'est un feu de paille ou bien est-ce que c'est récurrent? On verra cela. C'est la question qu'on peut vous poser. Est-ce que Renato Sanchez, il était à son niveau habituel ou il a joué à 120% hier?
Non, il a fait une bonne année. Il a joué bien à Lille. Après, il a pris le Covid, je crois. Il a eu une petite... ça fait mal. Donc, clairement. Il a arrêté de jouer. Mais il a fait un blessement. Donc, mais il a été très bien cette saison-là à Lille. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise.
Quel
et
joueur.
Après, on a vu que... qu'il ait commencé à jouer, on a vu un petit échantillon de son jeu contre la Hongrie, contre l'Allemagne.
Ah ouais, non, il est entré,
il a changé, changé les choses.
Je sais pas vous, mais à part le fait que Cristiano est rentré dans l'histoire hier, et Alex y reviendra probablement tout à l'heure, puisqu'il nous a préparé des petites stats de l'Euro, en dehors des deux buts qu'il marque, Cristiano Ronaldo hier, franchement, par rapport à Renato Sanchez, il a fait un match anonyme total, de mon point de vue, en tout cas, ça n'engage que moi, mais le débat est ouvert. Oui.
Moi, ce que je trouve juste dommage pour la sélection portugaise, c'est la blessure de Cristiano qui aura lieu samedi vers 14h12 autour de la piscine de l'hôtel. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, vous ferez ça, et c'est comme ça.
Mais je dois dire que même si c'est le plus discret, Moutinho a fait un grand jeu aussi hier. Avec ça, c'est le milieu, c'est beaucoup mieux qu'on avait contre l'Allemagne, on en croit. Et donc ça donne un petit peu d'espoir aussi. Et on espère, je ne sais pas comment on dit, c'est Denayer.
Dans la défense.
Je crois qu'il n'est pas, je ne le connais pas très bien, je crois qu'il joue en France.
Oui, il est portugais depuis peu. Hein.
Il joue à Lyon.
Il n'est pas si rapide que ça. Au moins, ces jeux-là, le jeu aérien n'est pas très fort non plus.
J'aime bien la gentillesse de l'euphémisme. Il n'est pas si rapide que ça. Voilà, ça c'est fait.
J'ai une question, Miguel.
Oui, Henri.
Miguel, j'ai une question. Est-ce que la presse portugaise, elle est aussi dure que la presse espagnole, par exemple, avec les siens?
Mais qu'est-ce que tu as sur la presse, toi?
Bernardo
Silva est passé un peu à côté de son match. Est-ce que la presse l'a allumé?
Non, non. La presse espagnole et la portugaise n'ont rien à voir. C'est d'une agressivité en Espagne qu'on n'a pas au Portugal. Ça,
je crois qu'on n'a nulle part en Europe.
Si c'est en Angleterre, ils sont assez...
Oui, je pense qu'en Angleterre, ils sont...
Oui, et les Français aussi, parce que il faut le reconnaître ça, c'est Cocorico pendant 10 ans quand il joue bien, mais c'est aussi Haro sur le baudet quand il joue mal pendant des plombes. Oui. On peut le reconnaître ça cette fois-ci, ils n'ont pas cherché d'excuses. Oui.
Non, mais c'est pas... il n'y a pas vraiment une critique très forte. Nelson Smith a été très critiqué contre l'Allemagne et contre l'Allemagne en particulier, on a des critiques. Hein. Le milieu, le Daniel et William Ford, ils ont fait, la presse était vraiment fâchée contre eux.
Ouais, enfin, vous avez quand même marqué 4 goals contre les Allemands, finalement.
Il <Non, ouais. rire>
faut pas l'oublier non plus. Alex,
dernière question maintenant. Si Yann Vertonghen qualifie la Belgique en fin de match, qu'est-ce que vous faites?
Comment?
Yann Vertonghen de Benfica. Si lui, il marque en toute fin de match et qu'il qualifie la Belgique, qu'est-ce qui se passe?
Il a perdu son emploi.
Il y a des choses, la chose plus importante que la sélection. Benfica, c'est beaucoup plus important que ça. Hein.
Et puis, je pense qu'il sera renommé.
C'est un vrai supporter.
Joao Vertonghen, et ce sera bon. Bien sûr, c'était de l'humour. Je ne souhaite pas à Cristiano Ronaldo de se blesser avant le match. C'était vraiment pour rire.
Je pense que
rire.
Tout le monde l'avait compris. Voilà.
Surtout que la dernière fois qu'il s'est blessé, c'était en finale.
J'allais vous dire quelque chose qui vous pouvez peut-être très bizarre. Mais là, on n'est pas. Ronaldo, c'est Ronaldo. Hein. C'est, vous savez que c'est aussi au Portugal. Il y a des gens, la majorité, c'est un dieu, il ne peut rien faire, il ne peut rien se tromper, c'est quelque chose de bizarre, mais bon. Mais je ne crois pas qu'on serait plus faible sans Ronaldo, ça c'est vrai. Ouais. Mais on a de très bons joueurs qu'ils pourraient avoir l'opportunité de jouer aussi, et on serait quand même très très dangereuse comme cela sent, même sans Ronaldo.
Tout à fait, ça s'est vu en finale.
Avec la Ligue des Nations, on a joué sans Ronaldo. Et on a joué, c'est la meilleure période de Final Punch, et tout le monde le dit, qu'on n'en a pas joué avec Ronaldo, c'est quand le 60 a joué mieux pendant le temps de Fernando Sanchez.
Ben je l'avais déjà dit dans cette émission, mais ça n'engage que moi une fois de plus. Je suis convaincu, mais on pourra jamais le savoir en même temps. Mais ma conviction était que je suis pas sûr que le Portugal aurait été champion d'Europe il y a 4 ans si Ronaldo avait joué la finale.
Terrain, ouais.
Parce que les joueurs, ça a, quelque part même inconsciemment, et de mon point de vue, ça a libéré d'une part les joueurs qui d'habitude quand ils ont la balle, comme tellement il est iconique. Ouais. Dans l'équipe, c'est tout de suite j'ai la balle, je la donne à Christian, hein, je la donne à Cristiano, oui. Et puis voilà.
Exactement.
Tandis que là, ils ont dû prendre leurs responsabilités, montrer leur talent et quelque part aussi galvaniser. Et il faut lui rendre ça. C'est pas le gars qui est resté dans sa chambre d'hôtel à regarder le match. Il était là sur le terrain, il a apporté un adjuvant moral énorme. Donc il faut. Voilà, c'est pas mon meilleur ami parce que dans la guéguerre qui les oppose, moi je suis un fou de Messi par rapport à Cristiano Ronaldo, dans la personnalité, dans tout. Mais c'est quand même un gars qui est, quand on pense qu'il a tout gagné, qu'il a plus besoin d'un centime pour les 20 prochaines vies et qu'on le voit comme un enfant être motiver les autres, chapeau bas, je dis, chapeau l'artiste parce que franchement, à 36 ans, il faut aller la chercher, la motivation, clairement.
Oui. Je crois qu'il manque, reconnaître qu'aujourd'hui, il est un vrai neuf. Il n'est pas le quelqu'un qui peut courir comme avant.
Ah non, clairement.
Bien
on
sûr,
l'a vu hier, d'ailleurs.
Il a changé, il s'est adapté, mais il résiste encore. Il résiste encore, même si le jeu dans sa position, c'est on a une petite résistance. Mais s'il laisse sa résistance, on va avoir Ronaldo jusqu'à la Coupe du Monde de 2022
au Qatar.
À l'États-Unis. Non, de 24, de 24, non, 18, 22. Non, c'est 22. Pas 22. Je parlais de 26. 20, non, je parlais même de 26.
Ah
de
26, oui. Hein. Mais, il sera peut-être entraîneur en 34. Hein. Aussi.
Donc,
c'est possible. Hein.
Mais je ne sais pas avec le problème qu'elle peut avoir avec la justice américaine qu'il va y aller. Hein.
C'est pas faux. Bien, Miguel. Merci infiniment d'être. Quelqu'un a encore une question pour notre ami Miguel. Un pronostic peut-être pour dimanche, Miguel. Mais un pronostic qui ne fâche pas, hein, soyons politiquement corrects.
Non. Bon,
0-6 ou 0-7 pour les Belges.
5-0 pour 5-0 avec 4 bouts de Ronaldo. Mais non, en fait, je vais dire un 3-2 pour le Portugal. Et Ronaldo sera seulement un bout de Ronaldo. Un bout de Ronaldo.
Donc vous voyez les Belges rentrer à la maison lundi après le match, vous. D'accord, ça va. Miguel, on a été ravis de vous avoir.
Bip.
À jamais donc, hein. Merci beaucoup. Bah écoutez, plus sérieusement, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère que quand vous êtes de passage en Belgique ou quand vous êtes de passage par XL, eh bien venez nous voir et quel que soit le vainqueur, on boira le coup ensemble avec grand bonheur.
Bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation d'aujourd'hui et pour l'invitation future qu'on vient de faire.
Eh bien voilà, c'est avec plaisir. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Au revoir, bonne soirée.
Au revoir, Miguel. Et puis bon match dimanche. On pensera à vous.
Merci à vous.
Donnez-moi votre adresse, on va vous envoyer des mouchoirs en papier. Après, bon, promis, on va faire ça.
C'est gentil de votre part.
Pas de quoi. À bientôt, Miguel. Au revoir.
Au revoir, à bientôt. Au revoir.
Bien, c'était bien sympa de voir ça. Et puis, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on entend l'accent comme ça, ben malgré la météo un peu maussade d'aujourd'hui, ça met du soleil. C'est pas Kostia qui va nous démentir, bien évidemment. Bien, ben on s'est dit pas mal de choses avec Miguel. Qu'en avez-vous pensé? Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement j'avais presque l'impression que c'était un tête-à-tête, mais à coup pas, parce que c'était pas trop.
C'était très bien.
Donc voilà, mais qu'en avez-vous pensé? Et puis j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur Ronaldo, parce que finalement on l'a évoqué, et puis on peut difficilement parler du Portugal sans parler de Ronaldo, bien évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même une figure emblématique. Comment vous l'avez trouvé? Moi j'ai un truc comme ça, je voudrais vous mettre le débat. J'ai eu un moment l'impression que ma connexion internet ici était foutue, parce que il y a eu un centre et puis il a sauté pour prendre la balle, je me disais ça y est, l'image est de nouveau arrêtée, parce que le temps était suspendu tout comme lui pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a que lui comme ça. Moi je ne connais pas d'autres joueurs comme ça, c'est inimaginable. Hein.
C'est un athlète phénoménal. Ouais.
Incroyable.
Mais maintenant, effectivement, comme on l'a dit là tout de suite, il ne faut pas mettre le focus sur Ronaldo pour ce match.
Je pense qu'il y a de belles individualités et on met tout sur lui. Et c'est vrai qu'il
faut pas oublier, il y a Diaz, c'est quand même le joueur de l'année en Angleterre. On a parlé de Renato Sanchez.
Non, le joueur de l'année.
Non, je parle.
C'est Kevin.
Défenseur. Il joue dans la même équipe en plus.
Oui.
Ça veut tout dire pour un jeune portugais. Il y a Moutinho, comme il l'a dit, qui était vachement pas mal. On a Fernandez de Manchester.
Bernardo Silva.
Aussi, mais c'est bien, tu les cites tous. Mais non, il y a des individualités, équipe, mais ils ont une énorme équipe aussi.
Tout à fait.
Avec de l'expérience, avec une équipe qui s'est débloquée un match.
Ouais.
Et ça sera très intéressant de voir la tactique de Martinez pour contrer le Portugal qui attendra.
C'est loin d'être gagné, bien évidemment. Moi, ce qui m'excite un peu dans ce match-là, c'est de me dire que peut-être, alors maintenant, c'est des procès d'intention, évidemment, mais si on avait rencontré un, entre guillemets, hein, parce qu'on a quand même les 16 meilleures équipes en principe sur le papier et sur le terrain surtout de l'Euro, je me suis dit qu'une petite équipe allait probablement jouer à la Mourinho, c'est-à-dire mettre le bus. Et les Belges détestent ça, en règle générale. Ils adorent avoir le ballon, mais ils aiment bien rencontrer des équipes joueuses. Et j'ai la sensation, pour ce que j'en ai vu, que le Portugal, le bus, c'est pas leur truc. C'est aussi une équipe assez joueuse, avec de la maturité, hein, parce qu'ils sont capables d'avoir un respect tactique de ce que l'entraîneur a dit. Mais je n'ai pas senti comme ça, ni contre l'Allemagne. Enfin, dans les trois matchs où je les ai vus, j'ai senti que c'était une équipe quand même joueuse, portée relativement vers l'avant, qui aime le beau football, qui est très esthétique. C'est pas du hurrah football, c'est quand même quelque chose d'assez construit, d'assez abouti. Mais ça, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vous finalement plus professionnel que moi, et surtout vous, toi Alex.
À voir, hein. tous ces joueurs, ils savent très très bien manier le ballon, comme tu dis, mais clairement. Ils savent aussi tactiquement fermer le match à clé.
C'est-à-dire qu'ils ne feraient pas la même erreur que le Japon s'ils menaient, c'est ça que tu veux dire? Parce que le Japon, c'est clair.
C'est un tout autre niveau, c'est tout à fait différent. La Belgique est passée à côté aussi, si je me souviens bien. J'étais dans un bar à Saint-Pétersbourg ce jour-là. C'est tout à fait autre chose. C'est un autre tournoi. C'est une équipe très mature qui sait ce que c'est gagner.
Oui, d'accord.
Je suis assez d'accord que le fait de jouer avec ou sans Ronaldo, ça change tout.
Oui, mais moi, je ne suis pas.
C'est mieux ou moins bien, je dis juste que c'est.
Moi, j'ai l'impression que pour certains joueurs, en tout cas, c'est libérateur. Mm-hmm. Parce que, ben, on le voit, il râle parce que c'est un gagneur aussi, hein. Et donc, il harangue ses partenaires en permanence.
Il met une pression.
Il met une pression.
Consciente ou inconsciente, mais il la met.
Et il appelle tout le temps la balle. Alors, évidemment, au bout d'un moment, quand un petit jeune arrive, il se dit, bon, ben, je vais peut-être pas aller contre le grand Cristiano. Et donc, on lui passe la balle et puis c'est tout. Et tandis que là, une fois qu'il n'est pas là, eh bien, d'une part, ça libère du stress et en même temps, ça permet de montrer ses propres qualités. Et donc, moi, j'ai cette sensation-là que c'est pas plus mal quand il n'est pas là.
Bon, moi, je vois deux choses positives de jouer contre le Portugal, pour la Belgique. La première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de se motiver. On ne va pas les prendre de haut. On sait que c'est une équipe sérieuse
et qu'on va
être prêt. C'est une finale. Ça peut être une finale. Et deuxième chose, c'est que c'est une équipe qui joue au football. Je pense que ça correspond mieux au jeu de Martinez.
C'est ça qu'on se disait, effectivement. D'un autre côté, je t'avoue que je pense que les Belges, ils ont cet avantage sur certaines autres équipes hexagonales, on va dire, pour ne pas fâcher. Je ne les sens pas prendre les gens de haut. Et je pense que si c'était le cas, le souvenir du Pays de Galles doit être très présent dans les têtes. Et je pense qu'on a appris la leçon. Et quand on écoute, alors maintenant il y a le discours et puis il y a ce qu'on pense, mais que ce soit Martinez ou les joueurs, j'ai entendu une interview de Kevin De Bruyne récemment, qui s'exprime de mieux en mieux en français, hein, il faut bien lui dire, et avec des termes de plus en plus classieux aussi, parce que on est sorti du cliché de « je m'en balèque », mais franchement, on sent, comme il le disait, et j'ai trouvé ça vraiment très fort de la part de Kevin De Bruyne, parce qu'il disait, voilà, le journaliste lui posait les questions du journaliste, hein, et jusqu'où on va aller, etc., et ben, il dit, bah oui, mais le foot, des fois tu gagnes, des fois tu perds, et c'est vrai que finalement, des 16 équipes qu'il y a là, ben, de toute façon, il n'y en aura qu'une qui ira au bout. Et donc, quelles que soient les qualités de l'une, quelles que soient les grands joueurs dans l'autre, il n'y en aura qu'une. Et il y aura des pénaltys cadeaux, et il y aura des injustices, il y aura des piquets, il y aura des lattes, il y aura des blessés. Et donc, voilà. Et donc, aller au bout n'est pas nécessairement, ne veut pas nécessairement dire qu'on est le meilleur, quoi qu'il arrive, même si c'est nous.
Il y a des routes qui sont plus faciles, il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles. Mais pour aller en finale et gagner, soulever un trophée, il faut pouvoir battre tout le monde, et pas se dire je vais choisir la petite route. Non, il faut se dire bah demain, enfin dimanche c'est le Portugal, et après ce sera
l'Italie.
Ben oui. Et voilà, et c'est comme ça, et si on veut aller en finale, il va falloir battre toutes ces grandes équipes. Ben, parce que...
qui aurait cru que finir deuxième dans un groupe, c'est mieux que de finir premier, je veux dire, dans l'absolu. Tout est
ou
fait.
Troisième.
Ou troisième, tout à fait.
Et finir contre la Suisse.
Ça sont des statistiques qui font parler. Après, on l'a vu en 2018, on pouvait choisir la Colombie, finalement, Adnan marque contre l'Angleterre. Tu continues un autre trajet, tu arrives quand même à la troisième place. Tout sportif qui se respecte voudrait gagner chaque rencontre.
Exactement.
Et après, il ne faut pas oublier, la Belgique est quand même numéro 1 au classement FIFA. Elle a l'ambition de terminer dans les 4 premiers ou de gagner ce tournoi. Tu dois pouvoir battre tout le monde. La France, le Portugal, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, peu importe.
Et c'est ce qu'on a fait sur la Coupe du Monde, c'est qu'on n'a pas choisi le chemin facile et on s'en est pas mal tiré.
Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on doit être capable de battre tout le monde, mais il faut aussi être capable d'assumer de pouvoir perdre contre tout le monde. Parce que je trouve que le niveau global, il y avait des années, mais vous êtes trop jeunes, vous. Moi, je fais partie de la catégorie des vieux cons, déjà. Mais enfin, dites des vieux cons. Mais c'est vrai que c'était un autre football. Il y avait quelques nations qui surnageaient au-dessus du lot et que toutes les autres, c'était un petit peu des oiseaux pour le chat. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit, alors l'Ukraine mise à part, parce que je trouve ça personnellement... Je trouve ça dommage de voir une équipe comme ça en huitième et de voir une équipe, même comme la Turquie avec zéro point, alors qu'elle a joué tous ses matchs, elle a mal joué, c'est vrai, elle est décevante, tout ce qu'on voudra, mais elle a joué au foot. L'Ukraine, j'ai rien vu, rien du tout, et ils sont en huitième, quoi.
C'est pour ça que je trouve que pour l'instant, enfin, maintenant on va arriver dans les huitièmes, les quarts, il y a souvent dans un tournoi comme l'Euro, il y a toujours l'équipe surprise. Il n'y a pas d'équipe surprise cette fois-ci.
Les Danois, les Suédois surtout. Pour moi, les Scandinaves, ils sont là, ils sont au rendez-vous. On ne les voyait pas arriver, là. On ne les voyait peut-être pas non plus sortis en poule, mais ils ont produit quand même des belles choses. Les Danois, bon, ils ont peut-être eu un adjuvant, on ne va pas revenir dessus, parce que je trouve qu'on en a fait des tonnes, et on est ravis pour Eriksen, que tout aille bien pour lui, et on lui souhaite le meilleur, mais voilà, on ne va pas revenir sur le débat qu'on a déjà eu ici. Je trouve que trop, c'est trop, quoi. On va dire, voir ça comme ça. Voilà.
Je rajouterais bien la République tchèque.
Oui,
parce qu'on a l'habitude, dans 96, ils arrivent très très loin, ils sont finalistes. Ici, avec une équipe sans forcément de stars, ils arrivent à dominer un groupe avec l'Angleterre, la Croatie.
Et sans faire parler d'eux, en plus.
L'Écosse.
On les voit pas venir. Hein.
En une fois, ils sont là, ils jouent contre les Pays-Bas. Pourraient-ils créer la surprise?
Moi, j'ai très envie de voir un Pays de Galles-Danemark. Hein.
Oui, c'est vrai que enfin, ça va être sympa. Ça va être ouvert, je pense. Et puis, c'est des équipes qui jouent... Il y a des équipes qui se disent bon, on va choisir notre moment fort et notre temps fort, et les Gallois ou les Danois, ben c'est des gars qui on leur dit vous êtes partis pendant 94 minutes et ils sont 94 minutes à 100%, quoi.
Les grosses affiches, c'est quand même Angleterre-Allemagne.
Oui, ça. Ben, enfin, encore faut-il se demander, en ayant vu la...
tu dis l'affiche sur papier.
Mais c'est ça, encore faut-il se dire, est-ce que l'Allemagne aujourd'hui est encore voilà, nous, ça nous fait rêver, c'est dans notre inconscient. L'Allemagne, comme disait Lineker, c'est le foot, c'est 22 joueurs qui courent derrière une balle et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Et ça a encore été vrai presque hier, en définitive, parce qu'ils sont souvent mis en difficulté et puis voilà. Mais est-ce qu'elle fait encore aussi peur? Moi, j'ai trouvé, je vais pas manger ma parole, je les avais pas trouvés mauvais contre la France, je les ai trouvés très très bons contre le Portugal. Hier, je ne peux pas juger, j'ai quasiment pas vu. L'Allemagne reste l'Allemagne et les grandes équipes ne mourront jamais. On évoquait ça hier soir en parlant de l'Espagne notamment. Mais franchement,
est-ce que l'Allemagne et l'Angleterre ne sont pas de belles équipes en devenir?
Ouais.
Je
pense qu'il y a des belles,
plus
y a des belles choses,
je trouve.
Mais dans quelques années, quoi.
Plus l'Angleterre, l'Allemagne, l'Allemagne c'est insipide.
Oui,
a fait des choses magnifiques en 2014.
Là, il est en bout de course.
C'est pas terrible de plus. C'est vraiment pas terrible.
Non, moi, je suis plutôt l'Angleterre en devenir.
Ah, l'Angleterre, moi j'avais mis ici, Henri est témoin, j'avais mis une pièce sur l'Angleterre en début d'Euro, mais avant le premier match, parce que je trouve que individuellement, quand tu écoutes les noms et que tu les as vus jouer, parce qu'on suit beaucoup la Première Ligue, puisque Kevin est là-bas, donc on les suit, Yann et Toby aussi, et donc pour les voir jouer, je me dis, des Mount, des Foden, enfin ils ont vraiment à toutes les places, ils sont un petit peu comme nous en fait, peut-être avec un peu de talent en moins, mais en devenir, hein, parce qu'ils sont jeunes, mais ils ont aussi la classe mondiale à tous les étages de l'équipe. Voilà, il y a des équipes qui n'ont pas cette chance-là d'avoir un class back, comme on dit ici, à chaque niveau. Les Anglais, c'est clairement bon. Mais moi, j'ai mis une pièce d'abord en fonction de ça, mais aussi en fonction du fait que s'ils vont au bout, ils auront joué 6 matchs sur 7 à la maison. Hein. Ça veut dire, en plus du public qui est là et qui est un adjuvant, il y a aussi le fait de ne pas se déplacer, de ne pas avoir toute cette infrastructure, cette logistique derrière, qui doit quand même être usante pour les organismes, en définitive, non ?
Il y a l'habitude. Mm-hmm. Et surtout, si on revient sur le match Belgique-Portugal, il y a deux variables intéressantes. C'est le terrain à Séville, qui n'est pas bon. Oui, parce qu'ils ont déménagé Bilbao à Séville en dernière minute. Et il y a la météo. Il fera 35 degrés à Séville dimanche.
Dimanche soir aussi là-bas, il sera 22 heures, non ? Il n'y a pas un décalage ?
Non, je ne pense pas. Mais il y a ces deux facteurs, la chaleur et le terrain. Le terrain sera le même pour les deux, vous allez me dire. Mais la chaleur, ce sera très intéressant de voir justement maintenant.
Et les Portugais sont plus habitués à la chaleur, bien évidemment. Encore que beaucoup de joueurs belges jouent quand même dans les championnats, à part l'Angleterre où il fait quand même bien chaud.
Chaque équipe a son camp de base chez elle pour l'instant.
Oui.
Le déplacement est plus court, mais ça, bref.
Mais ils seront plus habitués au...
On aurait dû jouer ce match la semaine passée, il y avait 35 degrés à Tubize.
On aurait dû jouer à Tubize, en fait.
On aurait dû avoir un stade national.
Alors, s'il vous plaît.
Mais on a deux jours de repos en plus. Hein.
C'est vrai, mais c'est toutes ces variables-là qui deviennent intéressantes. Et comme tu disais, l'avantage de jouer à domicile, il est pour plusieurs équipes aussi maintenant. Ouais. Donc,
c'est vrai.
Ces variables vont devenir très intéressantes à partir des huitièmes de finale maintenant. Il y a encore Séville, on a encore un match à Bakou. Pour avoir été à Saint-Pétersbourg, il fait chaud aussi là-bas.
Nous avons un match à Bakou ?
Non, je parle globalement.
J'ai eu peur.
Non, nous, si on gagne, on va à Munich.
Oui.
Je vais avec, ça m'arrange bien, donc il faut qu'on gagne.
Et puis à Londres.
Et puis à Londres pour le Final Four, j'ai presque envie de dire.
Eh bien, si tu as une place de trop, pense à nous, hein.
On fait un concours.
Promis, pas de souci. Blaise est déjà out of the game parce que lui, il avait pronostiqué la Turquie, donc on peut déjà l'oublier. On n'est plus que trois pour une place, quoi.
Moi, je voulais pointer aussi dans les huitièmes de finale, la France contre la Suisse. Je ne suis pas sûr que c'est un match si facile que ça.
Pour
la France. C'est un adversaire qui n'est pas facile à manipuler, je trouve.
Parce que l'histoire va en faveur de la France.
Mmh. Bien sûr. Tout, le score, les stats, les joueurs... Je pense que c'est pas une équipe si facile à bouger. Mais c'est mon avis. Hein.
Je vais peut-être jeter un pavé dans la VAR. Dans la VAR. C'est le cas de le dire, oui. D'ailleurs.
Parfois, il faudrait.
Je vais mettre un pamé dans la VAR. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Que pensez-vous de la France ? Le débat est ouvert. Et comme on n'est pas dans l'Hexagone, il ne durera pas 4 jours. Hein, on va le faire en 5 minutes, nous. Que pensez-vous de cette équipe de France ?
Peut mieux faire,
Costia ?
Moi, je trouve que sur papier, c'est une équipe incroyable. Je pense qu'ils peuvent blesser un joueur à chaque niveau de jeu, en remettre un autre et on aura le même niveau. Donc je pense que sur papier c'est assez incroyable.
Alex.
Après il y a un manque de...
C'est une équipe qui gagne énormément. Est-ce qu'il y a une lassitude ? Est-ce qu'ils ont encore ce drive après la Coupe du Monde, etc. Aussi je les ai vus contre l'Allemagne au premier match. C'est très bien organisé, mais on a vu les faiblesses face à la Hongrie aussi. Donc
ils sont capables.
Mais le premier match, c'est le seul match où ils jouent organisé. Les autres matchs,
leur dernier en Coupe du Monde aussi.
Pour être sincère, je vous posais la question.
Oui, on parle de là en Coupe.
Je vous posais la question parce que pour les avoir vus jouer les trois matchs, moi, c'est pas une équipe qui me séduit. Alors forcément, c'est une splendide équipe sur le papier. Tu le disais, Costia, c'est clair que c'est difficile de faire mieux hein, sur papier, comme tu disais, à tous les niveaux, à tous les étages.
Ils peuvent se blesser et en mettre un autre.
Mais ce que je trouve dommage, j'avais d'abord lamentable qui me venait en tête, mais je veux pas non plus aller trop loin. Mais avec un potentiel pareil, produire le foot qu'ils produisent.
Moi, je ne les vois plus champions.
Je trouve ça dommage. Alors que c'est un peu, j'ai envie de dire, alors je compare pas les êtres, on est d'accord, mais c'est un petit peu comme quand Mourinho était au Real Madrid. Tu as sur papier une équipe, t'as une arme de guerre, t'as une arme létale complète en termes de football, bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais un catenaccio avec le Real Madrid, quoi. C'est... Alors Deschamps ne fait pas du catenaccio, on est d'accord. Mais franchement, chaque... les trois matchs que j'ai vus de l'équipe de France, c'est deux ou trois fulgurances par match qui se sont avérées payantes en définitive. Certaines, et probablement celles qui auraient dû finir au fond, n'ont pas fini au fond parce qu'on y reviendra peut-être. Mais Raúl Patricio hier, Rui Patricio, c'est ça, le gardien portugais, il a fait un match hier juste invraisemblable. Mais donc, ils ont des fulgurances, des phases d'une limpidité et d'une intelligence et d'un génie absolu qui n'aboutissent pas. Et puis, moi, j'ai vu deux de leurs derniers buts, c'est tombé de nulle part. Hein. C'est le Lloris qui fait un dégagement qui est raté parce qu'elle monte en chandelle. Elle rebondit trop haut pour le défenseur qui est à la rue complète et boum. Ok. Hier, il y a un petit flottement, une petite passe de Pogba pour Benzé.
Elle est magnifique.
Il faut la placer, hein. Il faut la mettre là où il la met, clairement, chapeau bas. Mais c'est pas des. J'ai pas envie de dire. C'est pas construit, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'avec la France, on peut se dire aussi que ça peut aller très très vite un éclat et boum. Et on prend deux buts.
C'est ça la force de l'équipe, justement.
C'est assez dingue.
Elle peut s'adapter à toutes les situations quasiment. Et on a vu, on revient sur la Coupe du Monde. Leur match contre nous, ils peuvent endormir leur adversaire, mais contre l'Argentine, ils ont fait un match de malade.
Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi eu, contre l'Argentine, un but venu de nulle part, et je pense qu'il s'entraîne tous les jours. Hein. Depuis lors, il n'y a pas un jour où il ne fait pas 5 tirs par jour, mais généralement, je crois que c'est un de ces tirs qui a endommagé la Station Spatiale Internationale.
On en rigole, mais je trouve que c'est un très très bon joueur dans la mentalité, jeu, etc. C'est chapeau bas.
Ah ben, le but qu'il a mis là, c'est pas... Au moment où je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est le but du championnat du monde, et il n'y a personne qui était le chercher, ce but-là. C'était waouh.
C'est pas son travail premier, mais effectivement, il faut le faire.
Il faut oser, hein. Il faut la mettre. Bon, bref.
Comme on dit, ils sont capables de fulgurance. Hein. Les trois qui sont devant sont des top, top, top joueurs. Mais je trouve qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Tous les trois ont tendance à venir chercher des ballons derrière. Il n'y en a pas un qui reste en pointe. Je sais pas. Dans la cohésion, j'ai une stat qui dit que je pense que Griezmann a fait une passe à Benzema, je pense.
Oui, mais bon, ça c'est. En même temps, ils n'ont pas joué ensemble beaucoup, beaucoup. C'était en extrémiste que Benzema a rejoint le groupe France. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, parce que j'ai balancé les pots, maintenant il faut aussi balancer un peu les fleurs. J'ai vu peu d'équipes avec des attaquants de pointe et des pointures, c'est le cas de le dire, mondiales, que sont Mbappé, Benzema, Griezmann, jouer aussi bien derrière. Parce que non seulement ils ont fait un travail défensif de malade, mais en plus propre. Il y a notamment un moment, un tacle au début de match de Griezmann
qui est extraordinaire.
Je pense qu'il y a certains défenseurs qui pourraient en prendre de la graine. C'était juste parfait et propre. Et voilà, il faut leur rendre hommage. C'est pas tous les attaquants de pointe ou les gars qui sont devant qui font comme ça l'essuie-glace sur 90 mètres. Hein.
Et le chaos de Balboa, de Lloris. Lloris. Parce que j'ai vu l'action et puis mon téléphone s'est éteint là où j'étais. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé après, j'avoue.
Mais je pense que le défenseur non plus. Parce que l'attaquant non plus, il se souvient plus.
Je trouvais ça d'une violence. Ouais. Après, je pense pas qu'il l'ait fait exprès.
Non, mais même la presse française l'a allumé complètement.
Mais waouh, quoi.
Ouais. En fait, il rate sa sortie. Hein.
Il rate sa sortie, mais. Et même la presse française a été. Pourtant, c'est une icône hein, en France, Lloris. Ils ont même dit que pour eux, il méritait la rouge. Enfin, ça n'aurait pas été un scandale de lui mettre la rouge, quoi.
Après, c'est un joueur qui a une très grave blessure. Tout à fait. Il ne le fait pas exprès, mais après, dans un match, un gardien sort. Il y a tellement de choses qui se passent en quelques fractions de secondes.
Mais à sa décharge, il faut le voir, et même dans les images, on voit qu'il regarde le ballon. Et donc,
ah oui, je ne dis pas qu'il l'a fait exprès. Mais,
hein, loin de là.
Mais je trouvais qu'il y avait une...
Parce qu'il a aussi pris le risque de sa propre intégrité, il faut le savoir. Pour le même prix, ce télescope a quelques... Et ils sont tous les deux KO. Hein, donc,
J'étais même étonné que Danilo se relève, hein, franchement.
Ouais, mais là, on voit au ralenti, c'est impressionnant. Quoi. C'est comme un boxeur qui prend un direct en pleine face. C'est impressionnant.
Qu'est-ce que vous pensez des pénaltys? Le pénalty sur Mbappé?
Moi, finalement, alors, avec le VAR, j'aime pas dire pénalty léger ou pénalty lourd, parce qu'il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty, c'est ce qu'on dit d'habitude. Effectivement, je rejoindrais assez le. J'écoutais sur la RTBF, comme beaucoup de gens, c'était Swan, le chroniqueur français d'origine, donc voilà. Et il s'est montré extrêmement objectif, le gars. Et franchement, chapeau aussi. Pas toujours évident de garder son intégrité à ce moment-là. Lui, il trouvait que le pénalty sur Mbappé était moins évident que celui sur, que je dise pas de bêtises, en fin de match.
Coman.
Sur Coman, c'est ce qu'il disait. Bon, moi, sur Coman, je vois un incident de jeu, mais faute il y a, contact il y a, il lui marche carrément sur le mollet, quoi. Donc, et ça m'étonne. Alors que l'arbitre ne l'ait pas vu, ça, je peux tout à fait comprendre, parce que c'est faut situer ça pour nos auditeurs. C'est quasiment le long de la ligne de but, un peu décentré. Donc, l'arbitre est en retrait par rapport à ça. Et donc, finalement, c'est dans son champ de vision. Le corps du joueur fait écran pour voir la faute. Le linesman ne pouvait pas ne pas le voir, selon moi, mais le VAR aussi, il a eu les mêmes images que nous, le VAR et même davantage. Donc, n'étant pas intervenu, alors pourquoi ? Peut-être que compensation de la légèreté du premier pénalty, que sais-je ? Je n'en sais rien. Mais pénalty, c'est où il y a, où il n'y a pas. Il devrait être comme avec les hors-jeux, finalement. Mmh. Regarde Lukaku, ça se joue à un ongle, il n'a pas assez coupé. Voilà.
Le hors-jeu, c'est binaire. Le pénalty, pas forcément. Ça laisse place à une certaine interprétation.
Je suis d'accord.
Après, ils sont une demi-douzaine à décider.
Ouais.
En quelques secondes, certes, mais je pense qu'il faut leur faire confiance. Ce sont de vieux débats qui n'aident pas forcément l'arbitrage. Et c'est comme
c'est
en Belgique, on a besoin d'arbitres, on a besoin de les former, de les professionnaliser. Ce sont de vieux débats. S'ils décident à 6 qu'il y a pénalty ou à 5,
c'est ça, à un moment,
il y a pénalty, il faut le respecter. Les joueurs vont s'en plaindre éventuellement. Ils n'ont pas l'image non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, le VAR, etc., on se rapproche de plus en plus d'une certitude dans toutes ces situations.
C'est vrai. D'un autre côté aussi, on disait, j'écoutais ce débat sur une autre chaîne, il disait, oui, mais finalement, c'est quand même un humain qui juge la décision de la machine, ce qui est vrai, donc l'aspect humain reste le même. D'un autre côté, je pose la question suivante, en définitive... Je me faisais la réflexion, alors que ce soit les Portugais ou les Français, ça a été le même combat, l'arbitre siffle pénalty, ils vont tous autour du gardien. À quoi ça sert ? Il y a le VAR, c'est le VAR qui décide. Ça sert à quoi ? Et je prends pour exemple en Angleterre, il y a un respect...
Autour de l'arbitre, tu veux
dire ? Oui.
T'as dit le gardien ?
Pardon, autour du gardien, autour de l'arbitre, autant pour moi. Et en Angleterre, dès qu'il y a le VAR, ben, les joueurs restent dans leur camp. C'est vrai qu'émotionnellement, etc., c'est compliqué à gérer. Mais il n'y a pas ces conversations. On attend, on dit oui, on dit non, on explose de joie, on tire là, on rentre tête basse, et puis basta, et le match continue. Ça enlève un peu de passion au foot, ce VAR, alors que moi, je suis résolument pour, effectivement. Mais ça enlève une grande part. Je trouve que les décisions mettent un temps infini avant d'être prises. Et parfois, en tout cas...
Je trouve que ça va assez vite.
À l'Euro, ça va très vite.
Ouais,
maintenant, en Angleterre, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des sanctions et elles sont lourdes.
C'est vrai, ça j'ignore, moi. Alors, il faudrait les adopter ici, en Europe aussi, parce que honnêtement, je trouve ça fatigant, quoi.
Il faut uniformiser une sorte de système avec des délais, avec des un peu comme le hockey. Il y a aussi des temps morts, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Je pense qu'on est en plein dans la réflexion, on est dans la phase qu'on doit adopter aussi la VAR pour les clubs, pour les joueurs, pour les supporters, pour tout le monde. Donc ça met du temps avant d'être vraiment efficace. Et à ça, on doit rajouter la goal line technology et éventuellement aussi des hors-jeux. Maintenant, tous les joueurs, ils courent avec un GPS, par exemple. Donc il y aura à l'avenir, pour moi,
les data,
moyens. Il y a les data, mais on peut l'utiliser pour autre chose. Par exemple, dans tout le jeu FIFA sur console qu'on connaît, voilà, c'est binaire. Il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Donc ce sont des choses qu'on va pouvoir adopter, pour moi aussi, dans les 10 ans à venir.
Et puis peut-être aussi d'évoluer au niveau du... Allez, bon, je compare ça par exemple au rugby, du respect de la décision de l'arbitre.
Tout à fait.
Je pense qu'à un moment, cet homme et ce trio, on va dire parce qu'ils sont un peu plus maintenant, mais
Quintet.
Elle a pour ça. Et donc à un moment, quand on dit que c'est ça, et que ça a été vérifié...
Ça c'est de l'éducation, c'est vraiment un travail qui doit commencer par les tout petits.
Et au foot, ça a toujours été comme ça.
Éduquer les parents aussi autour du terrain, pas insulter l'arbitre, pas s'en prendre à l'adversaire. Ça doit commencer petit.
Il y a une forme humaine. Je suis dedans, je le sais, même en amical, on a envie de gagner, on a envie de défendre ses joueurs en tant qu'entraîneur. C'est pas toujours facile de garder son sang-froid et de se tenir. Et certainement, quand on parle de l'Euro, on parle de Première Ligue, on parle pour certains clubs, il y a une décision de terminer 17e ou 18e ou 17e, il y a 120 millions de livres qui en découlent. Hein.
D'accord. Donc là, effectivement, c'est ça qui est malheureux, en fait. L'état d'esprit est fonction d'un chiffre d'affaires. Et donc, ça quelque part, ce serait un peu... C'est un peu dommage.
Les joueurs ne pensent pas au chiffre d'affaires. Mais on a déjà vu des dirigeants en Belgique qui rentrent dans le vestiaire de l'arbitre ou des choses pareilles. Hein. C'est partout.
C'est toujours comme ça, c'est un peu comme les architectes qui ne pensent pas, le design ne pense pas au confort et inversement, et donc chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alex, on l'évoquait tout à l'heure, tu nous as concocté quelques petites stats de cet euro.
Mm-hmm.
Alors, on va commencer par quoi ? C'est toi le boss maintenant.
Tu parlais de Coca-Cola.
Oui.
Ça a fait un peu scandale, donc...
Quand c'est que je parlais de Coca-Cola, moi?
Au début de l'émission.
Ah bon?
Ah oui.
Ah bon.
Ah oui.
j'ai eu une absence.
Et pendant ce temps, Kostia se resserre de l'eau. Donc
de l'eau,
bien,
hein, de l'eau.
Est très content.
Bébé Aragua, hein, Aragua.
tu parlais de Coca-Cola, justement, petit test, enfin, petit quiz. Combien paye Coca-Cola pour être sponsor de l'euro? On parle juste de l'euro, pas de l'UEFA.
Est-ce que c'est plus que ce qu'ils ont perdu en bourse?
Va savoir, ça fluctue. Ce n'est pas le plus gros sponsor, ça je tiens à le dire.
Non, c'est Heineken, je crois.
C'est Heineken. Heineken paye 45 millions.
Wow.
On parle de sponsoring tournoi. Donc les bières qui sont vendues dans les stades, sur une moyenne de 5,50€ ou 6€ par exemple.
Wow.
Ça, on ne parle pas de leur chiffre d'affaires là-dessus, on parle du sponsoring.
On va dire 30 millions.
12-15.
Aucune idée, moi je ne vais pas m'avancer.
35. 35 millions.
Ah, ils sont que 10 millions derrière Heineken, eh ben, dis-moi.
C'est pas mal. Mais ils vendent énormément. Oui. Par rapport à Heineken.
Question, ça leur donne droit à quoi, donc, de la...
C'est toute une c'est tout un paquet c'est UEFA, de visibilité, quoi. De VIP, de branding sur tout et tous les visuels aussi qui ne sont pas LED par exemple.
En fait, à une époque, dans une autre vie, j'officiais déjà dans cette maison, mais c'était pas la même maison physiquement. Et j'avais reçu à cette occasion dans une émission c'était le responsable marketing de Coca-Cola Belgique, qui était, je sais pas si c'est encore le cas, il s'est chaussé de Mons. Et donc, je lui disais, mais Coca-Cola, c'est quand même la boisson la plus vendue dans le monde, etc. Est-ce que vous avez besoin de mettre autant d'argent dans la pub parce qu'on les voyait partout, etc. Et je dis, est-ce que vous avez une idée de ce que vous rapporte la pub? Parce que je rebondis sur ce que disait Henri à l'instant. Et il m'a répondu un truc, ça m'a marqué, puisque ça fait plus de 20 ans. Hein. Il m'a dit, je ne peux pas vous dire ce que ça nous rapporte. La seule chose qu'on sait, c'est que si on s'arrête une semaine ou 10 jours de faire de la pub...
Ça nous fait perdre autant.
Absolument. Ouais. Et il voit directement dans les ventes un plongeon par rapport à Pepsi notamment. C'est dingue. C'est incroyable. Donc ils ne savent pas ce que ça leur rapporte. Eux, ils font ça uniquement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont un manque à gagner colossal quand ils ne le font plus. Et donc c'est particulier. Alors je ne sais pas, probablement que l'économie a fort changé depuis 20 ans et je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'était bizarre à entendre, quoi. Tu vois ?
Ici, on parle de visibilité surtout.
Oui.
Grand tournoi, c'est un classique. Ils sont au JO, ils sponsorisent d'énormes tournois internationaux. Mais ils ont, de toute façon, tout ce qui est boisson dans les stades aussi. Mm-hmm. Donc, tu n'as pas forcément beaucoup d'alternatives en te rendant à Séville.
5,50, c'était
dimanche. Ça dépend des pays. Certains pays, c'est 7 euros, d'autres pays, c'est en rouble et c'est un peu moins cher aussi, ce qui est très accessible.
Mais tout leur revient ou comment ça se passe? Ou bien c'est quand même les
commerçants? Il y a une grosse clé de répartition entre le... Mais ici, c'est un tournoi particulier. Il y a l'UEFA, il y a plusieurs villes hautes, plusieurs pays, plusieurs cadres juridiques tout à fait différents aussi. Ouais. Hein, donc, c'est compliqué à chiffrer, à savoir individuellement.
Moi, en parlant de sponsor ou de... J'ai été très surpris de voir que TikTok était un des sponsors dans les plus grands, je pense, de l'euro.
Ça attire les jeunes.
C'est pas forcément un des plus grands, mais il n'y a pas de chiffre connu.
Un des plus présents, je
trouve. Sur ce qu'ils payent. Par exemple, on a Alipay. Et Alipay de Alibaba, la plateforme chinoise. Eux, ils payent 28,8 millions pour être sponsor aussi.
Mais enfin, quand tu dis ils payent, ça veut dire que l'UEFA leur réclame cet argent et c'est basé sur quoi les montants?
C'est tout un pack. Il y a une clé pour les, par exemple pour la visibilité sur les réseaux sociaux. Il y a une clé de autant de cents par like, par vue, par personne.
Ah oui, carrément,
il y a toutes des clés de répartition.
Je rappelle à nos auditeurs quand même, Alex, que tu travailles dans une boîte qui s'appelle
Sportimize.
Sportimize, et donc ça s'occupe de marketing et de communication, c'est ça?
Marketing, communication, réseaux sociaux. Donc l'Union Saint-Gilloise qui est chère à Kostia.
Ce que tu nous expliques maintenant, c'est un petit peu ton quotidien et ton terrain de jeu. C'est pas comme si moi je parlais de ces mêmes choses. C'est vraiment une vision professionnelle du sponsoring, quoi.
C'est mon terrain de jeu. Il y a plusieurs fois par jour quelques news qui apparaissent sur les réseaux sociaux Sportimize, Facebook, Twitter, Instagram.
D'accord. Ben c'est bon de le savoir, parce que parfois les gens pourraient se dire, ben ils racontent n'importe quoi, ben au moins, comme ça, vous savez que c'est un professionnel qui vous parle, et je ne parle pas de moi pour une fois.
Allez, on passe à la deuxième question.
Oui.
La ligue la plus représentée à l'Euro. Donc, d'où viennent les joueurs en club?
Première ligue?
Ouais, tout à fait.
C'est ce que j'aurais dit aussi, a priori.
Suivi par la Liga?
Non. Par la Bundesliga.
Ah oui.
La Liga, traditionnellement, ils ont beaucoup de joueurs, argentins, brésiliens... qui joue. Donc l'euro, on est à l'Euro fatalement, donc ces joueurs ne sont pas là. Donc c'est la Bundesliga qui est la plus représentée après. Et puis on a la Serie A avec 71 joueurs.
Et puis la Jupiler League.
La Jupiler League ne figure pas dans les dans les stats. On a, sauf si tu fais allusion à Van Aken et Mignolet du club de.
Par contre, pour avoir suivi un peu cet Euro, je trouve qu'il y a énormément de joueurs dont on entend parler qui sont passés par la Jupiler Pro League. Je pense à Perisic, je pense qu'il y en a plein comme ça. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas les catégoriser là-dedans, mais on a quand même eu des petits bijoux dans notre championnat. Hein, il faut quand même le reconnaître.
Et je vais dire un truc qui va vous faire plaisir, beaucoup sont passés par Bruges.
Oui, mais bon, ce n'est pas à ce niveau-là que je sais que je suis brugeois, mais ce n'est pas ça qui me titillait. Mais je me dis, tiens, on disait toujours le football pauvre, le football belge, c'est le parent pauvre. Et bien finalement, on a quand même une ligue et un football et une division. Et...
On est une ligue de passage.
C'est tout à fait ça, parce que quand tu vois la Hongrie, par exemple, dans le classement, ils sont 8e.
D'accord.
Avec 18 joueurs qui évoluent en Hongrie. Mais la Hongrie, justement, est un championnat trop faible, entre guillemets, pour rivaliser dans une Coupe d'Europe, par exemple. Donc, ils ont beaucoup de joueurs du pays qui participent. La Russie également, même si eux, ils sont un peu ouverts à d'autres joueurs internationaux. Mais la Belgique, justement, elle se retrouve dans une position plus délicate, parce que tu es un championnat juste trop faible pour rivaliser le sub-top européen ou le top européen, mais tu es trop bon pour rester dans ton propre pays.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment la version pudique de dire j'ai le cul entre deux chaises, en quelque sorte.
On peut dire ça comme ça.
une autre stat, Alex.
Petit quiz encore. Qu'est-ce que remporte en millions l'équipe qui gagnera le tournoi?
Mais vous parlez toujours d'argent, toi. Hein.
Ah, mais c'est
après, on va activer les clichés. Hein.
C'est le nerf de la guerre à l'euro. Le total des primes, c'est 331 millions et c'est 10% de moins à cause de la crise Corona. Que l'UEFA souffre aussi, évidemment.
Oui,
donc
bien sûr.
C'est la fédération.
Ça, c'est le total.
C'est ce que la fédération recevra en prime de participation. Donc il faut gagner tous ces matchs et fatalement la finale.
Et donc, on gagne 331 millions quand on...
Non, ça c'est la cagnotte totale pour les 24 équipes.
Donc, la question, c'est combien?
Une équipe gagnante.
160.
Non. Moi, je dirais, entre 80 et 100, à tout péter.
Non. 330, c'est pour les 24 équipes, donc c'est...
Ah oui. Bon, ben, 1 million par équipe. Donc, Infantino, il en prend 15
Platini.
Ou 20.
Platini.
C'est ça.
Ouais. On a 28 millions 25.
Donc, pour le premier.
Presque 30 pour l'équipe qui gagne tout.
Donc, c'est 1 million par joueur, quoi. Plus l'entraîneur, on est à 27. Il y a 1,5 million pour les ramasseurs de balles.
Ça change des Belges qui étaient en finale dans les années 80 ou qui ont fait des bons tournois et qui recevaient un salaire mensuel.
Ben, à l'époque, j'ai rencontré un jour Paul Van Imst, mais il y a 30 ou 40 ans de ça, et il expliquait qu'eux, ils jouaient, je pense que c'était 2000 francs pour une victoire, je pense, un chiffre comme 2000 francs belges.
Gilbert Van Imst a dit que pour les goals qu'il avait marqués en finale de Coupe d'Europe, donc c'était à Paris contre l'Austria de Vienne, il a reçu un lave-vaisselle.
Comme quoi, en plus il s'est arraché sur ces buts-là.
À mon avis, l'utilise encore.
Ah oui, c'était pour reprendre les maillots après le match.
C'est toi qui prends les maillots, hein, t'as gagné le sèche-linge.
Encore une autre stat, vite fait.
Encore une autre stat, mais je ne vais pas en faire un quiz, on va les remercier. Il y a 28 000 bénévoles actifs sur tout le tournoi. Donc ça fait quand même en moyenne 550 à 600 par match.
Donc ça les bénévoles, ils ne voient rien de la cagnotte.
Ils voient rien de la cagnotte, mais ils ont un défraiement de bénévoles, j'ose imaginer, ou en tous les cas, un joli t-shirt Euro 2020 qui collector.
Bah, en même temps.
Côté merchandising, on ne vend pas énormément de ce que j'ai vu dans les
stades. Et ils doivent acheter des coca à 5,50€.
Mais pour le voir, parce que moi je suis passionné de sport automobile et donc je suis souvent sur les circuits et j'étais le week-end passé au Mans, mais pas pour les 24 heures du Mans, pour une toute autre discipline. Et finalement, tous les commissaires que vous voyez c'est aussi du bénévolat pur et dur, c'est de la passion pure et dure, et vous vous dites, quand vous voyez ça, waouh, et quand je vois qu'il y en a qui se plaignent et qui font les chochottes, parce que en foot notamment, je pense à Neymar, pour ne pas le citer, je me dis, il y a quand même des gens qui sont motivés, qui vont juste pour la passion, le cœur, le respect aussi, parce que c'est marrant, quoi. Ils viennent dans une équipe. Après, j'ai un commissaire qui était venu. Presque à chaque course, c'est comme ça. Est-ce qu'il vous reste une casquette ou quelque chose de l'équipe, alors qu'on est tout à fait anonyme, hein? Et donc, c'est des gens, et c'est pas des, comme on dit à Bruxelles, des onus, hein, du tout, hein. Mais ils adorent, c'est une passion absolue, et ils font des collections. Et ces gars sont là, dehors, en plus, par tous les temps, parce que je peux vous dire comment, la semaine passée, on a connu une nuit samedi vie passée, mais alors Dantesque, de chez Dantesque, ben, ces gars, ils sont là avec leur drapeau à s'agiter toute la nuit. Enfin bref, et je disais, il faut saluer le bénévolat, où qu'il soit. Oui. C'est vraiment extraordinaire, quoi, de voir qu'il y a... Et quelque part, c'est presque injuste, on a envie de se dire, parce que c'est... tout le monde s'investit de la même manière. Vous envoyez, vous vous dites, ok, il faut être... Mais je trouve qu'on jette de l'argent par-ci, par-là, on leur... Enfin, c'est presque... comment dirais-je, indécent, et à côté de ça, vous avez des gens qui ont une motivation peut-être même supérieure à certains qui sont payés, et qui, eux, ne touchent absolument rien.
Mmh. Voilà. Merci à eux.
Non, oui, justement, tout à fait. Tout à surtout fait. Dans le sport belge aussi, c'est très important, le bénévolat, et c'est ces personnes qui aident, de manière journalière, les clubs aussi à grandir et avancer. Et donc ici, c'est un bénévole, en fait, par 36 spectateurs, et c'est ingrat cette année pour avoir été à Munich. Il y a beaucoup plus de règles, des heures d'entrée, des chemins à parcourir avant d'entrer dans le stade.
Ils ont beaucoup plus à faire.
Ils ont beaucoup plus à faire. Il y en a beaucoup plus à surveiller. Aussi, parce qu'ils doivent contrôler les passeports Covid, le ticket, envoyer les gens dans la bonne direction, faire face aux frustrations de certains supporters aussi sur place. Donc, c'est le moment de les remercier.
Et ça peut pas durer trop longtemps, parce que sinon les gens vont pas être contents parce qu'ils sont venus une demi-heure avant le match. Et oui, mais bon. Parce que les gens sont difficiles aussi, hein.
Ben, c'est un petit peu quand vous êtes sur une hotline, vous faites engueuler alors que c'est pas de votre faute que votre téléphone, que son téléphone fonctionne pas, vous faites engueuler à longueur de journée. C'est pas toujours évident. Ça s'apprend aussi, ça, d'ailleurs. Voilà, c'est dans le cahier des charges. Vite fait, encore une stat intéressante ou pas? Non, Alex?
C'est fini.
Non, bah.
4 pour clôturer, il est 9h, c'est parfait.
Mon Dieu. Bien, mais que le temps passe vite. On avait prévu même une pause musicale. On va peut-être déborder de 2-3 minutes pour demander à notre ami Kostia. On a reçu ton pote ici.
Greg.
Greg Genard, la semaine passée. C'était un vrai bonheur de l'accueillir. Ouais. Je sais que vous allez à. Je sais plus où c'est.
À Avignon. On part à Avignon la semaine prochaine.
Ah, ben dis-moi.
Moi, je pars samedi. Je crois que lui part le vendredi ou le dimanche, je ne sais plus. Mais on va se retrouver là-bas.
Moi, je vais faire une annonce. Le 28, c'est lundi. Si vous voulez voir Kostia sur scène, c'est au MIP. C'est au Théâtre à Watermael-Boisfort. Il y a encore des places.
Ah, bah merci.
Ah, bah c'est cool, oui. C'est One Man Show
Non, là, c'est un plateau d'artistes. Donc, on sera 6 artistes, si je ne dis pas la bêtise. Et on passe tous entre 10 et 15 minutes.
C'est un peu façon cabaret, quoi, en quelque sorte. Enfin, je veux dire cabaret c'est... comme café.
Ouais, comédie club. Donc, chacun vient présenter une partie de son spectacle pour donner un peu fin et venir voir
chacun
le reste.
C'est vraiment ça, deux générations.
Bah ouais,
et le 27, je joue aussi au Zygomatico Maca à Wavre, si vous n'êtes pas à Bruxelles, mais que vous êtes à Wavre. Ça se passe le dimanche après-midi à 16h.
Ah bien, d'accord.
Le 27, comme ça, on a encore le temps d'aller voir le match des Diables.
Ah ben, clairement. Ben,
le 27, c'est... on sera ici, en studio.
Donc, si tu es disponible, la porte est ouverte, tu le sais. Hein.
Oh, le 27 à l'heure du match. Je ne sais pas.
Est-ce que tu as vu les écrans qui sont là? Les écrans.
Ils seront allumés.
Ils seront allumés, bien sûr.
Alors, peut-être.
Alex, merci beaucoup d'être venu.
Avec plaisir.
On rappelle que ton équipe favorite et de cœur, c'est l'Union Saint-Gilloise. Donc j'imagine que le cœur doit commencer tout doucement à battre de plus en plus fort parce que vous avez rejoint l'élite, ça, il n'y a plus de surprise. Mais je suppose qu'on doit avoir hâte du côté de la butte de jouer son premier match depuis autant d'années. C'est 39 ans, je crois, c'est ça? 48 ans. Ouais. Voilà.
On est en pleine préparation.
Voilà.
On enchaîne tous les 3 jours un match.
On prépare. Un petit scoop sur Mercato ou bien tout est...
Moi, j'ai pas été capable de répondre.
Secret défense. Bien.
C'est très secret.
Bah oui, mais tant mieux, c'est chouette, mais vous allez être armé, rassure-moi.
Bah on attend l'élimination du Portugal pour prendre Cristiano.
Je crois que le meilleur transfert, c'est d'avoir gardé Mazou.
Ah oui, ça, c'est une évidence.
Sorry, je t'ai coupé.
Enfin, moi, ça m'a pas du tout mis un doute une seconde. Felice, c'est pas un homme, c'est pas un mercenaire. Mm-hmm. C'est un gars qui s'inscrit dans la durée. Il l'a dit lui-même à cette antenne, d'ailleurs. Donc, ça m'étonne qu'à moitié, à mon avis, ça aurait été peut-être parce qu'il se serait disputé avec quelqu'un, mais sinon, c'est pas un gars qui reste un an et demi et qui se barre. Ça lui ressemble pas. Donc, tant mieux pour,
La continuité.
La continuité. Tu viens quand tu veux, hein, tu le sais. Hein.
On se revoit bientôt.
Avec grand bonheur. Et je vais reprendre un petit abonnement du côté de la butte.
Excellente idée, ils sont en vente jusqu'au 23 juillet.
Tu sais que c'est le premier stade que j'ai visité de ma vie. Hein. J'avais 7 ans. Mon papa me traînait Verlaisen, Scrappen, Trappeniers. Voilà.
Il faut revenir.
Ça va être beau,
ça va être chouette en D1. Le retour des supporters aussi.
Avec les trucs en pierre, il y avait quelqu'un dedans qui donnait les tickets. Ce sera encore comme ça ou ça a évolué?
Le truc en pierre, comme tu l'appelles, donc l'ancien marquoir, il est toujours derrière le marquoir actuel. Donc c'est du patrimoine historique à Bruxelles.
Et c'est toujours Edox le sponsor.
Non.
La montre du temps présent.
La montre du temps présent. Puis ta-ta-ta-ta, Rodanien.
Souvenir de Dieu. C'est nouveau pour le Tour de France. Pour nos amis cyclistes.
Bien, ben, Henri. Merci beaucoup.
Rendez-vous dimanche.
Rendez-vous dimanche. On va pas casser les pieds de nos auditeurs demain. Il y a congé. Dimanche soir, on sera ici pour préfacer, bien sûr, le match des Diables. Et puis, pour débriefer aussi le match des Pays-Bas qui rencontreront la République tchèque juste avant, exactement, à 18h. Ce sera un vrai bonheur. Et, ben, messieurs, Kostia, merci. Alex, merci.
Bonne soirée à tous.
À très, bonsoir, très vite, j'espère. Et encore merci à Miguel, notre invité téléphonique du jour. C'était un vrai bonheur, cet accent portugais, moi. Ça m'a fait chaud au cœur. Ciao.
Ciao, ciao.
Tous n'oubliez pas demain, diables. Tous derrière les diables, et n'oubliez pas, prochain rendez-vous direct, c'est demain matin à la matinale, et vous retrouvez Alain Kubchik avec Asley Santoro et Miri Maman. Bonne nuit à tous, bye bye.
En Russie, on est passé juste à côté. Cette année, on est tous derrière les diables. One team, one mission, one goal. Ont marqué au moins 17 pour qu'ils nous remboursent
la télévision ancienne.
Un petit pont, deux ailes de pigeon, vous toucherez pas le ballon, c'est nous qu'on sera champions. Un petit pont, deux ailes de pigeon, on a la solution.
Tous derrière les diables, tous derrière les diables, tous derrière les diables.
Un Speedy Gonzales, deux bras de Courtois, un Z de Hazard, une pousse de Doku, une pointe de Kevin, l'affaire de Witzel, et pour corser le tout, un boulet de Lukaku, sans oublier les larmes d'Mbappé.
Oh,
un petit pont, deux ailes de pigeon, vous toucherez pas le ballon, c'est nous qu'on sera champions. Un petit pont, deux ailes de pigeon.
Soir, il fait soif.
Que tu sois fricadelle ou kefta, cerveza, à péquer ou cava.
Moule ou chocolat, bruxellois, flamand ou wallon. Ce soir, on est fan de ballon.
Un petit pont, deux ailes de pigeon. Vous toucherez pas le ballon, c'est nous qu'on sera champions.
Un petit pont, deux ailes de pigeon. On a la solution.
Tous derrière les diables.
Tous.
secours des enfants qu'on bouscule. Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça, qu'avant de prendre la parole, il faut aller là-bas. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien, mais c'est encore plus facile de ne parler de rien. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Perdu dans tes nuances, la conscience au repos. Pendant que le monde avance, tu trouves pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Dans ma tête, une musique vient plaquer ces images sur des rythmes d'Afrique, mais je vois pas le paysage. Toujours ces hommes qui courent, cette terre qui recule, ces appels au secours, ces enfants qu'on bouscule. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Si on est deux. Si on est deux.
De FM.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on
show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free.
Thank you.
hey, on n'aura jamais le temps de tout faire. On n'aura jamais le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie ne me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Jeu d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre de foot comme Luca Toni ou bien Jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test, mais je connais pas la rue. Mais à force de vous écouter, au plus j'y plaquette à couper, je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenue. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là.
Souviens-toi, on avait dit quand on était des types qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zénithes. C'est bien parti, on a quitté notre table, on est prêt pour se barrer. Je sais pas si je referai la même. S'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je meurs d'audé dans 10 ans ou je vis jusqu'à 80 piges?
Je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tant. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferai moins d'efforts. J'irai dessiner, faire du ciné, ça me fascinait. Avant de ciné, ce qui est décidé, c'est que j'essaierai de les saigner avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. On s'habitue trop vite, je ferai toujours partie de ceux qui
auraient voulu faire ci, auraient voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là.
Souviens-toi, on avait dit quand on était des types qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table, on est prêt pour se barrer.
De FM.
Fine.